Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente de vous avoir comme fidèle aujourd'hui. Alors, nous allons parler des feux. Rappelez-vous, c'était en août 2025, c'était l'année dernière. Enfin, on est un petit peu en avance, mais c'était presque il y a un an. Le 5 août, démarrait un feu qui ne fut maîtrisé officiellement que le 28 du même mois et qui a touché 16 communes du massif des Corbières, pardon, au sud-ouest de Narbonne, dans le département de l'Aude, en France. Et ce 5 août 2025, eh bien, le département de l'Aude avait été placé en vigilance rouge par Météo France en raison du risque très élevé d'incendie dans un contexte de sécheresse et de canicule en Europe. Météo France avait prévu des températures de 35 degrés et des vents de 60 km/h et avait prévenu, dans cette atmosphère chaude et sèche avec de la tramontane, le danger des feux sera très élevé sur l'Aude ce mardi. Un des pilotes de guet aérien repère vers 16h15 le long de la D212 un départ de feu et largue immédiatement 10 tonnes de retardant. Le feu naissant est déjà très puissant lorsque 4 Canadair arrivent à 17h, soit presque une heure après, et larguent une première cargaison de 6 tonnes d'eau. Moins d'une heure après le départ du feu, donc, un renfort de 2000 pompiers est appelé. Mais le feu s'étend très vite. Vers le sud-ouest, attisé par un fort vent de tramontane. Et ce sera le pire incendie depuis plus de 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon une base de données du gouvernement qui répertorie les feux de forêt en France depuis 1973. 20% des vignes de Corbières seront impactées, 900 hectares seront détruits par le feu et 600 autres. Le vignoble a souffert des flammes, de la chaleur ou des produits retardants largués par des bombardiers d'eau. Si les feux dans les Corbières interpellent à juste titre par leur intensité et leur dangerosité pour les humains, ils provoquent aussi un drame silencieux pour la faune sauvage. Certaines populations locales d'oiseaux, de reptiles ou de petits mammifères pourraient ne jamais s'en remettre sans intervention spécifique de restauration des habitats. Alors, eh bien, on a vu des associations immédiatement se mettre en branle et se mettre tout de suite à la recherche des animaux domestiques. Bien sûr, on n'en a pas parlé, mais n'oubliez pas, ce sont des animaux domestiques, c'est-à-dire attachés à une maison. Ce sont les chiens et les chats des propriétaires qui sont peu éloignés du feu, qui ont été apeurés, qui se sont sauvés, qui ne sont absolument pas adaptés à la vie sauvage.
On part en recensement, donc on va chercher le maximum d'animaux qui soient décédés ou vivants. On va recenser tous les cadavres, tous les vivants et secourir ceux qu'on peut secourir, donc les capturer et faire le transport sur les centres de soins ou les vétérinaires qui peuvent les accueillir.
Donc le but du jeu, c'est de leur mettre un petit peu de nourriture, jamais trop, juste qu'ils sortent de la zone incendiée pour reprendre un petit peu de force et aller continuer sur une zone qui est beaucoup plus verte, un oasis pour eux.
En fait. À peu près une trentaine de kilos d'aliments pour animaux domestiques, pour chiens ou chats. Et on a une dizaine de kilos de fruits, légumes divers qui ont été coupés. Et on a plusieurs centaines de litres d'eau aussi, hein, puisque la partie hydratation est importante.
Et donc en fait là on est à la salle communale de Ribotte qui nous a été mise à disposition par la mairie pour qu'on puisse intervenir toute la semaine sur le méga feu qui a eu lieu dans la région là depuis une ou deux semaines déjà. Ouais, ça reste très compliqué parce que le feu est pas totalement fixé, il y a des reprises surtout dues à la canicule et au vent, donc on a des autorisations au compte-goutte. Donc là on fait plutôt des missions nocturnes puisqu'on a toutes les autorisations nécessaires et qu'on fait que en fonction des autorisations. Donc en fait on fait des missions plutôt le soir où on va distribuer grâce aux dons qui ont été faits de la nourriture pour les animaux, donc des fruits et des légumes qui nous ont été validés par le vétérinaire, et de l'eau. On a mis en place plus d'une vingtaine d'abreuvoirs qu'on va remplir tous les jours pour que les animaux puissent boire et manger, reprendre des forces.
Et en fait, c'est l'un des chats qui appartient à la propriétaire, qui est propriétaire du terrain, qui est les animaux qui sont enfuis. On a retrouvé un des deux chats et on sait qu'il y a le deuxième qui est potentiellement dans le coin. Donc on essaye d'identifier et puis avec la caméra de pouvoir voir, parce qu'on a mis un petit peu de points de nourriture pour le récupérer si c'est possible.
Alors la nuit, on en voit beaucoup sur les tournées, mais c'est des animaux qui sont en très bonne santé, mais c'est plutôt bon signe puisque ça veut dire qu'il en reste encore heureusement et que du coup on repasse souvent au même endroit, on a mis des caméras et on les suit aux jumelles thermiques et donc on a un suivi qui fait que ceux qui s'en sortent bien et avec l'eau et la nourriture peuvent continuer à survivre sereinement, plus sereinement du moins.
Alors, on vient de parler un petit peu des animaux domestiques, mais il y avait bien sûr des animaux de cheptel. Alors, Laura Affortit est avec nous. Bonjour Laura.
Bonjour.
Donc, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Les Chevaux de l'Éden. Alors, cette association, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, de base, nous sommes un refuge. Voilà, et c'est vrai qu'il y a déjà quelques années en arrière, on a été... devant le fait accompli, où il a fallu qu'on intervienne pour aider à reloger des quantités importantes de cheptels, d'agriculteurs, de centres équestres et de particuliers qui avaient des petits troupeaux.
Mais alors, est-ce que vous vous occupez uniquement des chevaux ?
Pas que. Voilà, on s'occupe des ovins, des caprins, des bovins.
Donc en gros, des grosses bêtes.
Voilà, des grosses bébêtes.
Des grosses bébêtes. Hein. Et donc les troupeaux ?
Les troupeaux, oui, les cheptels complets, les troupeaux, qu'ils soient, je dirais, à but d'élevage ou de particuliers.
Alors, quel est votre travail immédiat dès qu'un feu se déclare ?
Alors, déjà, on a de l'avant, avant d'avoir immédiatement sur le feu, c'est-à-dire qu'en avant-saison, on demande à l'ensemble des personnes qui nous suivent et qui sont adhérents à l'association d'avoir des listings d'accueil, de possibilités d'accueil, que ce soit pour des ovins, des caprins, des porcins, enfin bref, tous les animaux qu'on peut
trouver. Vous faites un espèce de recensement, quoi.
Voilà, on fait un recensement des places disponibles. Et aussi sur nos partenaires, certains, s'ils ont des particularités, parce qu'on a des animaux, des fois, qui sont âgés ou qui sont blessés, qui ne sont pas faciles à évacuer, comme ça peut être le cas dans des associations, des refuges, des SPA, où on a des animaux avec des contraintes. Donc ça nous permet, si ça doit être déclenché, d'être vigilant justement à ces prises en charge. Voilà, donc ça c'est tout le recensement qui se fait avant, qui nous permet que quand il y a quelque chose qui se déclenche, de pouvoir nous mettre à la disposition des autorités, de la préfecture et de la sécurité civile, avec des listings d'accueil prêts à répondre aux besoins. Et s'il y a des annotations spécifiques sur certaines zones avec des choses qu'on a recensées, nous, sur nos cartographies, nous mettons nos annotations à la disposition.
Mais alors, quand vous dites « nous », on a l'impression d'une véritable armée. Votre association, c'est quoi exactement alors ?
Alors, il y a plusieurs bénévoles derrière tout ce travail, parce que c'est un travail de fourmi. Il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui passent du temps justement à ce recensement. À contacter, et puis bon, ben après c'est mon rôle à moi en tant que responsable d'avoir toujours une vigilance. Donc on a des partenaires aussi qui sont sur gérer de la gestion du feu, qui nous alertent quand il y a des gros chantiers ou des moments à risque très forts. Et donc à ce moment-là, on a une vigilance.
Donc en fait, vous êtes général des armées.
Oui, gentiment, on peut dire ça en souriant, oui.
Bien. Alors, donc, ces incendies, quand ils se sont déclarés dans l'Aude, est-ce que immédiatement vous avez perçu qu'on était sur quelque chose d'assez exceptionnel ?
Alors, pas immédiatement. Parce que bon, déjà, j'avais mes occupations avec nos problématiques. Nous, on agit sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. Donc on n'est pas concentré, je dirais, que sur l'Occitanie. Et il y avait aussi à ce moment-là d'autres feux sur l'arc méditerranéen aussi conséquents, où on avait une vigilance et où on était employé à donner, à l'État et à la sécurité civile des positionnements des lieux. Et on était en vigilance pour les lieux d'accueil ou des problématiques particulières.
Donc vous voulez dire que vous avez pris un peu de retard par rapport...
Pas forcément du retard, mais disons qu'on avait un œil. Après, c'est vrai que ce feu avait une géographie un peu particulière, puisqu'il y a déjà très peu de points de route, d'accès de route, ce qui a été une contrainte énorme. Voilà, il y avait beaucoup de choses, en fait, qui ont malheureusement joué à ce que ce feu se déclenche et se propage aussi vite. Voilà, parce que bon, nous, j'ai eu une vigilance... À partir de au-delà de la première heure, en fait, voilà.
Oui, alors, donc vous évoquiez le problème des routes, mais on évoque aussi, bien sûr, le type de végétation. On est sur une végétation un peu sauvage.
Oui, un peu sauvage, malheureusement, avec très peu d'entretien, ce qui a, je pense, favorisé vraiment la propagation.
Et on est aussi proche d'un parc naturel régional.
Oui, oui, oui. Parfaitement. Ce sont des... Malheureusement, C'est vrai que c'est pour la tranquillité des animaux, c'est très bien, mais des fois, quand il n'y a absolument aucune intervention, ne serait-ce que par de l'éco-pâturage, par exemple, ça peut mettre en difficulté justement aussi cette faune sauvage qui est fragile.
Alors, ça, on va avoir l'occasion d'en reparler plus longuement. Donc, les incendies n'ont pas détruit seulement des hectares de végétation méditerranéenne, ils ont menacé aussi toute une biodiversité exceptionnelle qui a été forgée par des millénaires d'évolution dans un climat sec, rude et contrasté. Alors cette zone qui se trouve entre garrigues, pinèdes, falaises et vallées, et alors justement les falaises, elles constituent un refuge pour de nombreuses espèces sauvages, certaines qui sont protégées, endémiques ou strictement inféodées à ce type de milieu. Alors, vous avez donc, dès le départ, vous aviez votre recensement, vous avez immédiatement donc su où vous deviez intervenir pour sauver vos cheptels, mais en même temps, est-ce que, parce que vous ne devez pas être très très nombreux à vous occuper des animaux quand même, les gens sont là pour s'occuper essentiellement de leurs biens, d'eux-mêmes, de leurs vignes, etc. Donc, vous étiez consciente en même temps qu'il y avait quand même une biodiversité qui était très riche et que tout cela allait disparaître ?
Oui, malheureusement. Après, c'est vrai que, ben, bon, je vous le disais, on était déjà aussi engagés sur des sinistres qui étaient sur d'autres lieux. Donc forcément, la réactivité, notre association ne compte pas des centaines de milliers de personnes, ni des milliers tout court de personnes. Donc ben, nos efforts étaient déjà engagés, malheureusement. Après, on s'est rapprochés très vite des autorités, hein, pour voir ce qu'on pouvait mettre en place et aussi être facilitateur au niveau des agriculteurs. Voilà, donc on a été avec différents acteurs.
Donc le premier temps, c'est essentiellement l'organisation de l'évacuation des cheptels. Alors c'est fondamental. Et est-ce que les paysans, enfin les agriculteurs, vous aident dans ce cas-là ?
Mais bien sûr. C'est un pilier, c'est une chaîne, enfin c'est un maillon indispensable de cette chaîne. Donc évidemment, il y a une coordination, donc on a contacté différentes personnes qui sont clés sur ce territoire-là, et notamment avec la Confédération, je ne vais pas dire de bêtises, qui ont dispatché les informations, et voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à se regrouper, parce que le problématique qu'on rencontre, nous, pour accéder à ces chantiers-là, c'est qu'évidemment, quand c'est des gros feux comme ça, déjà, c'est très impressionnant.
Puis les gens s'occupent d'eux-mêmes, suppose. Ils s'occupent quand même de leur maison ou de leur famille.
Disons que c'est surtout la sécurité civile qui est employée sur des missions bien spécifiques. Et le maître mot, c'est la prudence.
Donc chacun, finalement, a un rôle bien défini.
Complètement. Et donc c'est pour ça que sur certains chantiers, quand ils sont de cette ampleur-là, l'accès peut être restreint, ce qui est complètement entendable. Mais voilà, il nous a fallu batailler et lutter pour faire entendre. Et heureusement qu'au sein de l'association, nous avons de très bons appuis sur des vétérinaires, des colonels, etc., qui ont été facilitateurs justement pour ouvrir les routes et que ces agriculteurs puissent...
Pourquoi ? Parce qu'on ne vous laissait pas rentrer ? On ne vous laissait pas aller vers les animaux ?
Ben non, tout simplement, mais c'est normal, parce qu'il faut savoir que pour le moment, c'est pas encore organisé concrètement sur le territoire, ce genre d'action-là, et qu'il y a des il y a des protocoles à respecter au niveau de la sécurité civile pour pas se mettre en danger. Tout le monde n'est pas au courant des formations spécifiques de telle association, et quand c'est en gestion de crise, on n'a pas le temps de vérifier que tout le monde soit formé. Donc tout ça, c'est un travail à faire en amont, et aussi un travail de communication au sein des préfectures et au sein du territoire.
Bien sûr. Et vous croyez que c'est quelque chose qui va aller en s'améliorant ? Enfin, ça fait partie vraiment de la gestion du risque, des risques à venir.
Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'il y a des groupes de travail au niveau national qui sont déjà dans les boucles, qui sont déjà presque en travail finalisé. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il n'y a pas qu'une problématique. Il y a les problématiques de transport et les problématiques sanitaires au niveau des déplacements des troupeaux, parce qu'on peut déplacer une épidémie ou en créer une. Donc il faut faire très attention. Et tout ça, ça nécessite des savoirs, que des lois soient posées, qu'il y ait un encadrement qui aujourd'hui, pour le moment, n'existe pas.
Bien sûr. Et donc ça, forcément, donc, ça retarde les premiers gestes.
C'est un frein, effectivement. Mais je sais que ça va bientôt arriver. Il faut être un petit peu patient, mais les groupes de travail ont bien avancé. Et voilà, c'est pour bientôt.
Donc, en tant qu'actrice, finalement, vous comprenez. Et parce que vous comprenez, les choses se passent finalement relativement bien.
Alors, la chance aussi qu'il y a, c'est que personnellement, j'ai été sapeur-pompier volontaire pendant quelques temps. Ce qui est aussi ce qui me donne une vision du terrain. Et je peux comprendre les problématiques qu'il peut y avoir sur les postes de commandement à ces moments-là. Et on ne veut pas être empêchant, mais au contraire, facilitateur, autant pour les animaux que voilà, il faut pas se mettre en danger, il faut pas gêner les missions de secours, il faut s'incorporer dedans tout en restant à sa place et en sécurité.
Alors, je vais être un peu le porte-parole des associations de défense de l'environnement, parce qu'il n'y avait pas que les grands cheptels, etc. Il y avait aussi tous ces petits animaux dont on parle peu, tous les animaux protégés, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, enfin, les petits mammifères, enfin, finalement, auxquels on accorde un petit peu moins d'importance forcément qu'à un troupeau domestique ou à son chat ou à son chien. Et finalement, ce sont quand même des animaux qui, en termes de biodiversité, comptent, puisque ce sont souvent des espèces protégées et que, malheureusement, leur disparition peut avoir un impact fondamental sur la biodiversité à venir. Alors, par rapport aux associations qui s'en occupent, qui sont ce qu'on va appeler des naturalistes, qui sont souvent un peu familiers du côté sauvage de la chose. Est-ce que vous arrivez quand même à communiquer et est-ce que vous arrivez à créer des liens qui vont, dans l'avenir, permettre à la fois de poursuivre le travail que vous faites, mais en même temps d'aller au-delà et peut-être de s'occuper des espèces qui compte un tout petit peu moins?
Alors, il n'y a pas d'espèces qui comptent moins, déjà. Mais disons qu'il faut prendre en compte que comme il y a énormément de choses à savoir, c'est compliqué qu'une seule association détienne tous les savoirs pour le moment. Donc, c'est des choses qui se construisent. Donc, évidemment, on a besoin d'avoir des partenaires efficaces et qui maîtrisent bien leur sujet. Je n'ai pas aujourd'hui de compétences particulières sur les animaux, je dirais, sensibles, comme de certains amphibiens qui sont en voie de disparition. Ce ne sont pas de mes qualifications. Je reste sur ce que je connais, ce que je maîtrise. Après, c'est très intéressant.
La question que je vous posais, c'était, est-ce que vous arrivez à travailler?
Bien sûr.
Avec ceux qui connaissent.
Mais chacun a sa place, en fait. Tout le monde a sa place. Donc, bien sûr, ceux qui connaissent, ils apprennent à ceux qui sont moins sachants. On se met à disposition, quand c'est comme ça, des personnes.
Mais vous communiquez bien.
Disons que ça se fait naturellement. On est là dans l'intérêt des animaux. On n'est pas là pour autre chose.
D'accord. Bon, alors donc, ces incendies, eh bien, ils n'ont pas détruit seulement les hectares de végétation méditerranéenne. Ils ont menacé toute une biodiversité exceptionnelle, on l'a vu. Hein. Et puis, on va voir disparaître des garrigues, des maquis, des sous-bois, des arbres creux. Enfin, tous ces abris qui étaient des zones de reproduction, des sources de nourriture aussi pour ces petits animaux. Tout un écosystème est bouleversé. Et donc, les animaux qui survivent fuient vers des zones qui sont déjà saturées. Alors, j'ai pas envie de parler des sangliers parce que c'est un exemple sur lequel on reviendra et puis c'est pas si simple que ça.
Non, c'est pas si simple, mais leur présence est indispensable justement pour d'autres espèces qui se nourrissent également des sangliers. Donc, en fait, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre.
Voilà. Mais ce dont je voudrais qu'on parle, c'est finalement tous ces animaux qui fuient. Parce qu'il y en a quand même une partie qui réussit à s'enfuir. Donc, ils vont vers des zones qui ne sont pas prêtes à les accueillir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
En ce moment-là, souvent, on les retrouve en lisière de feu pour ceux qui sont arrivés, je dirais, à se sauver par eux-mêmes. Et c'est vrai que là, c'est la grande difficulté pour le sauvage, on va dire, parce que c'est un équilibre qui est plus fragile. Nous ne sommes pas compétents et à ce moment-là, on se met à disposition d'associations qui, elles, sont spécialisées sur l'intervention de ces animaux-là.
Et qu'est-ce qu'elles en font, alors?
Elles sont redirigées sur des LPO en général, chez des vétérinaires, où il y a des vétérinaires qui incorporent les équipes de ces associations-là pour faire les soins de première instance sur le terrain. Nous, on va plus être là, en apport logistique, voilà, pour les soutenir. Ça va être aussi pour apporter de l'alimentation, de l'eau, des points d'eau, voilà, et toutes ces choses-là à dos d'homme, parce qu'évidemment, c'est sur des fois des points d'accès qui ne sont pas forcément faciles ou motorisables, donc voilà, ça demande de porter des charges.
Alors aujourd'hui, on est un an après. Ces animaux, ils sont devenus quoi? Ils ont rejoint leur zone?
Sur les animaux sauvages ?
Oui.
Alors, déjà, il faut que le temps que l'habitat se reconstruise. Donc, il y a certaines espèces, on les voit traverser, entre guillemets, il y a des traces. Mais il y en a d'autres qui, malheureusement, pour le moment, ne sont pas encore là. Parce que c'est un écosystème qui est détruit comme ça par un feu, ça peut être de 20 à 40 ans pour se réinstaller. Et c'est très compliqué. En plus, il faut savoir qu'il y a selon les périodes où ça tombe, les retardants, les produits utilisés pour la lutte contre le feu impactent le nourrissage des animaux sauvages, puisque l'herbe devient impropre.
Ah oui, ce sont des produits chimiques, bien sûr.
Voilà, il faut un certain temps pour que le sol puisse l'absorber et l'évacuer, pour que les animaux puissent de nouveau revenir se nourrir.
Quand vous dites un certain temps, il faut combien de temps ?
À peu près, on va dire, allez, en restant un peu vague, autour de 3 mois.
Ça peut aller quand même.
Donc
oui.
3 mois, ça laisse quand même, vous voyez, on arrive dans l'automne, voire la fin de l'automne, donc ça met en difficulté justement les petits mammifères qui avaient l'habitude de vivre là et de se nourrir de certaines essences.
Donc on a une zone qui va rester quand même complètement dévastée. On vient de voir d'ailleurs les chasseurs prendre une décision avec l'ASPAS de refuser de chasser dans ces territoires. Alors cette décision, moi, elle est juste, elle est importante.
Elle est pleine de sens. C'est
oui,
très
pourquoi
juste. Mais parce que tout simplement, ces zones où il y a des animaux qui sont habituellement proie à la chasse, font partie justement d'une chaîne alimentaire. Et si on veut que certains animaux reviennent sur cette zone pour y vivre, il faut laisser la place aux vivants. Et en le chassant, on les met en difficulté. Voilà, il faut que, je dirais, la nature reprenne un petit peu son droit, ce qui va être un peu lent, parce que comme je vous le disais, pour que toutes les essences, qu'on puisse retrouver les essences qu'il y avait avant, il faut entre 20 et 40 ans.
Bien, alors là on a vu un peu tout ce qui, on vient de faire un peu une photo, un scoop de ce qui s'était passé pour les choses dont on a moins parlé. Maintenant, on en est beaucoup plus à l'information un an après, on informe les populations et puis surtout on essaye de gérer le risque. Donc on entre dans une phase de gestion du risque. Alors il y a une des mesures qui a été immédiatement mise en place, c'est celle du débroussaillage. Le débroussaillage est devenu absolument indispensable.
Alors déjà sur beaucoup de plans en Occitanie, c'est déjà le cas depuis de nombreuses années, où on fait un petit peu la chasse, hein, et ça peut s'entendre au vu du réchauffement climatique, on va être de plus en plus enclin à des feux violents. Donc effectivement, il faut entretenir les bois, entretenir les espaces, entretenir les parcs, ça devient une nécessité si on ne veut pas brûler à outrance.
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part protéger sa propre demeure ou protéger ses propres vignes ou son propre champ, mais il y a aussi permettre l'accès dans des zones compliquées aux pompiers.
Bien sûr, pas que aux pompiers. Vous avez tous les systèmes d'éco-pâturage où là, vous avez des animaux qui sont à la bonne hauteur, je dirais, pour pouvoir faire un pâturage donc, qui est bénéfique pour tout le monde, pour la nature, pour la panse de l'animal et surtout pour, je dirais, le sauvetage de l'animal. Parce que nous, on essaie de regarder dans la globalité. Il y a des animaux aujourd'hui qui sont sauvés de maltraitance, donc on a du mal à trouver une vocation après. Et c'est vrai que l'éco-pâturage, du coup, ça trouve toute sa place, par exemple, pour des débouchés pour ces animaux-là qui sortent de saisie judiciaire.
Voilà. Alors, justement, quand vous parlez d'éco-pâturage, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des controverses, hein, des débats en cours dans les villages, parce que les gens se disaient, mais bon, c'est bien joli le débroussaillage moderne, mais ça remplace pas finalement. On avait des débroussailleuses tout à fait habituelles qui étaient nos chèvres. Donc voilà que les chèvres sont interdites. Et donc on a Luc Casson qui justement s'étonne de ce fait.
Bonjour Luc Casson, vous êtes maire de Roquefort des Corbières dans l'Aude, et on est ici dans un village qui a une tradition pastorale.
Exactement. Depuis la nuit des temps, Roquefort était une base pastorale, tricotée d'ailleurs. Il y avait un marché à la laine à l'époque qui était prisé, et il y a eu jusqu'à 40 troupeaux sur la commune.
Et donc, à l'époque où il y avait des troupeaux, la garrigue était...
Évidemment, la garrigue était nettoyée et n'était pas nettoyée, voilà, on ne peut pas...
On avait beaucoup moins de feu.
C'était maîtrisé. Et à cette époque-là, en tout cas, de toute ma jeunesse, je n'ai jamais vu un gros incendie sur la commune.
Forcément, puisque les chèvres
nettoyées.
Nettoyées. Et
voilà.
Et alors, tout à coup, l'État a eu une excellente idée, c'est quoi ?
C'est-à-dire, c'est l'État, on ne peut pas... C'est l'ONF qui, actuellement, évidemment, c'est un service de l'État, mais qui met des contraintes à l'utilisation des chèvres.
Donc, fini les chèvres.
Voilà, actuellement, fini les chèvres. On a justement le bonheur d'avoir trouvé un chevrier qui a accepté de venir de nettoyer une partie de notre garrigue. Une partie, je dis bien, parce que sur Roquefort, il y a 4500 hectares de garrigue et un troupeau de chèvres, il lui faudrait la vie pour repasser.
Mais donc, vous aviez la chance d'avoir un chevrier.
Voilà. Et malheureusement, l'ONF émet des restrictions à l'utilisation de ce troupeau.
Clair, c'est interdit.
Voilà, quasiment, c'est interdit. Il nous le limite à quelques hectares sur le plateau là du plat de roc.
Ce qui veut dire que le risque de feu va augmenter.
Voilà. Il préfère que la garrigue soit consumée par des incendies qui ne sont arrêtés de nos jours que par les étangs. Quand il y a un incendie maintenant, même les Canadairs n'arrivent pas à maîtriser le feu. Donc on attend que ça arrive à l'étang et là il s'arrête naturellement.
Comment est-ce que vous expliquez qu'on en arrive à un tel délire ?
Et je ne sais pas trop, je pense qu'il y a un décalage entre le monde rural, la ruralité et des esprits qui sont dans des bureaux, voilà, une bureaucratie un peu trop souveraine.
Qui sont capables d'interdire les chèvres.
Voilà, qui sont capables, on arrive à cette aberration, interdire les chèvres.
Merci Luc Castan.
Avec plaisir.
Voilà, donc il y a quand même effectivement une aberration qui est soulevée là. Alors on sait que les chèvres effectivement font du dégât aussi dans la biodiversité parce qu'elles bouffent tout, mais il faut bien sûr les surveiller, on peut les surveiller. Et ce monsieur et ce maire attendaient un chevrier.
Ben, c'est une solution qui me semble la plus pertinente et c'est vrai que ce que dit monsieur a beaucoup de sens, c'est qu'aujourd'hui on est souvent dirigé par des personnes qui n'ont pas forcément toute la connaissance du terrain, dans les administrations n'ont pas toujours une vision du terrain ou de l'écologie de terrain comme ça peut être le cas.
Bien, alors vous pensez qu'aujourd'hui la principale action à mener va dans quel sens ? Pour tout le monde, je veux dire.
Pour tout le monde, de façon générale, ça va être déjà la prévention, déjà de savoir pourquoi on fait les choses et quels sont les bons gestes. Et la prévention aussi au niveau des éco-pâturages, du débroussaillage, qui sont absolument indispensables pour justement préserver le vivant, mais à tous ces étages. C'est-à-dire préserver ses biens personnels, préserver le vivant au sens large, que ce soit pour des troupeaux domestiques ou pour la faune sauvage.
Et vous, à titre personnel ?
Ah ben nous, à titre personnel, on fait déjà de l'éco-pâturage, puisque bon, on a voilà, sur la base du refuge, nous avons déjà quelques biquettes qui font un bon travail. Et après, bon, on a des ânes aussi, on a les chevaux. Donc voilà, tous les étages de végétation, étages divers, se sont mangés.
Merci Laura.
Je vous en prie.
Alors avant de nous quitter, deux news importantes cette semaine. La présence des tiques est en train de se généraliser en France avec une recrudescence de la maladie de Lyme. Et comme le mercure remonte petit à petit, les tiques signent leur grand retour partout en France. Alors longtemps, elles ont été associées à l'est et au nord de la France ainsi qu'au milieu forestier. Mais elles sont aujourd'hui présentes dans la quasi-totalité des régions et dans des environnements variés, des prairies, des jardins, des lisières, des parcs urbains. Aucun milieu végétalisé n'est désormais épargné et faites-y attention. Et le biologiste Julien Perrault devrait venir bientôt nous en parler à cette antenne. N'oubliez pas non plus samedi 9, c'est la journée de l'Europe. Une occasion de redécouvrir son fonctionnement, de l'Europe bien sûr, son rôle, ses décisions de justice, ses rapports, ses ouvrages et ses projets de loi. Autant de sujets qui permettent de mieux comprendre son fonctionnement et son impact concret dans la vie des citoyens. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.